Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous sommes le mardi 4 février 2025. Vous écoutez le 21e épisode de la saison 8 de Sneak On Air. Sneak On Air, la première et la seule émission 100% sneakers au monde de la FM. Animée par toute l'équipe de Sneakers Empire, qui met de la culture dans tes baskets. You will not be able to change the channel.
Money's gotta be the shoes.
Shoes,
shoes,
shoes.
You sure it's not the shoes?
Do you know, do you know, do you know?
Yeah, 1, 2, 1, 2.
You know how I do.
Yo, what up? This is A1. And I'm chilling on Sneak On Air, man. It's the one and only radio show 100% talking about sneakers in the world, hosted by Sneakers Empire. Every Tuesday, 8 p.m. to 9 p.m. on RBS 91.9 FM. Chill, don't sleep.
That's right.
Look, Mom, I can fly.
Yo, man, your Jordans are fucked up.
Sneak On Air, épisode 21. Saison 8. Bienvenue donc dans le 21e épisode de la saison 8 de Sneak On Air. Aujourd'hui, nous nous plongeons dans l'univers fascinant des sneakers et de l'influence numérique avec Maximilien Entari, auteur d'une thèse à la Sorbonne sur le rôle des baskets dans le style des influenceurs. Nous discuterons aussi des dernières sorties sneakers et des évolutions du modèle Hype selon Matt Powell. Nous terminerons bien sûr notre émission par notre quiz pour nos chroniqueurs. Alors, bienvenue à toutes et à tous dans ce 21e épisode de la saison 8 de Sneak On Air, là où la culture se vit en basket. Au programme pour ce 21e épisode, notre traditionnel tour de qu'est-ce qu'on porte dans le studio ce soir. Nous ferons des infos et du débat dans la deuxième partie de notre émission et nous commencerons par les baskets qui sortent cette semaine que nous avons retenues. Et pour cela, j'ai tous nos chroniqueurs de Sneakers Empire qui sont dans la place et j'en profite en ce mardi 4 février pour re-souhaiter un très bon anniversaire à Laurent Blum, mon papa qui l'a fêté hier, on l'embrasse très fort et on attend avec impatience le 7 février, grand jour de l'anniversaire d'Aurélie que j'embrasse un petit peu en avance. Et ben voilà, autour de la table, l'émission ne serait rien sans eux. Ils sont concentrés, à l'affût, tout prêts à réagir. Il y a Krish qui est dans la place. Salut Krish, tu vas bien ?
Salut Alex, salut tout le monde.
La forme ?
Ouais.
Ouais, on a Ghislain aussi qui est là. Salut Gis.
Salut.
Tu vas bien ?
Ça va, et toi ?
Ouais, super, il partage son micro. Alors, on en a débattu en interne, mais tu resteras quand même notre docteur Sneakers, le docteur de l'amorti, mais avec ce côté scientifique, tu vois, c'est pas forcément le docteur primé de thèse, etc.
Mec, s'en fout des diplômes.
Voilà, c'est ton expertise qui prime. Et on a Manu, a.k.a. Funky P, a.k.a. Jimmy Bones, a.k.a. le druide dans la place.
Ouais, ouais.
A.k.a. Notorious B.I.G.
Ce soir, je suis très East Coast, alors que d'habitude...
Mec, t'as retourné ta veste. Hein.
Non, pas du tout, elle est réversible de nature.
Elle est de nature. Alors, tu portes quoi ce soir ?
Faut se rappeler que Tupac représentait la Ouest, mais il est né du côté Est. Hein.
Exactement.
Je porte quoi ce soir justement, c'est de là qui est inspiré mon outfit parce que j'ai un vieux pull Kooji des années 90. Ouais. Certains n'étaient pas nés. Je porte la Timberland 6 inches boots édition Notorious Big en noir avec des petits détails un peu partout qui sont sympas, notamment sur la semelle avec écrit Notorious Big, sur la languette avec le bébé que l'on voit sur la pochette de l'album Ready to Die et surtout le petit détail au niveau des lacets avec les finitions prise jack.
Yes.
Pour me brancher sur la bonne musique.
Bien joué, ça fait partie de la culture basket.
Exactement,
totalement.
La team est spéciale.
Magnifique team, on en avait parlé en début d'année dans cette saison. Tu portes quoi, mon ami
moyen,
Nico ?
Après une description comme ça.
Elle était belle.
Je porte une Air Trainer Max 91 Bo Jackson de 2010. Voilà. Bo Jackson.
Bo Jackson, le multisport.
Allez, c'était stylé. Ils n'en avaient pas fait une avec. Il avait écrit Bo Knows, en fait. C'était son slogan
ouais.
chez Nike.
Ouais. Des Raiders.
Ouais, Raiders. Exactement.
Et plein de traîneurs, etc. Quoi.
C'est ça.
Etc. Krish, tu veux nous dire ce que tu portes ?
Je porte une paire d'Adidas Nisa High en collaboration avec Parler. Voilà, je savais pas quoi mettre. Il me fallait une chaussure noire parce que ce matin j'avais un rendez-vous professionnel.
Ah ouais,
incroyable.
Bah on embrasse ton
coup,
équipe.
On embrasse Sébastien qui nous écoute. On embrasse toute l'équipe de Passe Muraille.
Bisous poteau.
Ils m'ont gentiment accueilli. Donc ouais, du coup, je me pose la question des fois. Ben qu'est-ce que tu mets comme sneakers lors d'un rendez-vous, tu sais, pour pas que ce soit trop flashy, trop. Regarde quel basket il a mis, tu vois. Donc ouais, j'ai mis une paire full black classique. En collab avec Parler. Donc,
ouais, Parler, on peut rappeler.
Parler, oui, effectivement, c'est une organisation qui œuvre pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de plastique dans les océans. C'est un peu de taf, hein. mais en tout cas, leur objectif, c'est effectivement nettoyer les océans, récupérer le maximum de plastique des océans, en fabriquer des fibres et à partir de ces fibres, fabriquer des maillots de foot, des paires de baskets. Donc, c'est une organisation qui a travaillé longtemps avec Adidas et avec d'autres marques, comme Levi's, par exemple. Donc, ouais, c'est une belle cause.
Ouais, c'est sympa.
Ouais, c'est cool.
La paire est très, très mignonne à retrouver. Merci. Dans la story grâce à notre ami Jaime qui est dans la place. Jaime, tu veux nous partager ce que tu portes ?
Ouais. Salut Alex, salut les auditeurs.
Je te prends un peu à court, hein, je vois.
Ouais, comme d'hab, mais bon, ça va. Je porte une paire de Nike, c'est la Air Max One Curry, coloris rouge de 2018.
Ah, elle est très belle. Elle est très belle. Et il y a Seb qui est aussi dans la place. Tu portes quoi, Seb ?
Alors ce soir, bah, comme d'habitude, hiver, mauvais temps, donc mais Adidas en collaboration avec Fear of God, toute noire.
Toute noire.
Étanche.
Okay, c'est clair, étanche et chaude et pas toujours souple. Est-ce que toi, Ghislain, t'as pris la parole aujourd'hui encore pour nous dire ce que tu portais ?
Non, pas encore. Un peu dans le même délire que Seb, j'ai mes Lunar Force One, ultra résistante pour le temps et tout, qui va un peu avec l'outfit inspiration workwear. On a du Carhartt, du Levi's aujourd'hui, une petite chemise en flannelle, voilà quoi.
Faudrait pas concurrencer Manu hein, quand même. Faut faire
non, il est quand même son outfit est un peu plus poussé quand même que le mien et je dois dire que les références sont assez sympas.
Pas mal. Tout le monde a parlé ?
Pas toi ?
Ah oui, exact. Et ben moi je porte mon beater de l'année 2024-2025. Il s'agit de la Jordan 4 réimaginée par Nike qui est sortie l'année dernière sur le coloris bread, la noire et rouge, qui a la particularité d'être en full cuir. Et par ce temps un peu mitigé, c'est plutôt confo et c'était assez chaud et en cuir ça marche pas mal quand il risque de pleuvoir, quand il y a du brouillard, etc. Et voilà, le reste j'ai moins assorti que Manu. J'ai surtout choisi ma paire. Voilà, je vous propose qu'on passe à l'actu des baskets qui sortent et on aura une deuxième partie très orientée sur quelques sujets qu'on a retenus. La première basket, elle est sortie, soi-disant sortie le 1er février en exclu Europe, voire même Paris. On l'a teasé depuis pas mal de temps sur quelques sites internet. Il s'agit de la Off-White Nike Air Force One Low couleur Paris. Elle est full grise. Moi, c'est ça qui m'a plu dans la paire. Mais je vous pose la question. Est-ce que vous l'avez vue ? Est-ce que vous avez vu un endroit où elle est sortie ? C'est pas mon cas. Elle n'est même pas sortie sur l'application SNKRS. J'ai rien vu.
À Clignancourt, je crois.
Juste à Clignancourt ?
À Clicli. Non, c'est une blague. Hein.
Peut-être, mais
c'est une très mauvaise blague.
En modèle un peu moins.
C'est
une
très bonne blague.
Ouais, moi je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je trouve que c'est quand même très bizarre qu'une Off-White sorte en collaboration avec une Air Force One de manière la plus discrète possible.
Ouais, c'est ça, c'est très chelou.
Personne n'a rien dit. Généralement, tu vois toujours une ou deux stars ou un influenceur qui va la porter. Là, j'ai vraiment rien de rien, quoi.
Ouais, mais je pense que ça n'a pas été mis à jour et que c'est quasiment pas.
Je sais pas. Après, le
timing était bon, c'est la Fashion Week.
C'était la paire.
Ouais, mais du coup, si c'est la Fashion Week, t'es censé la voir au pied de certaines personnes sur les photos, tu vois.
Mais c'est pas Jaime qui nous disait qu'il avait vu au pied de 2-3 gens à la Fashion Week ?
Je sais pas. Moi, j'ai pas tiqué.
Pourtant, c'est un modèle qui avait cartonné. Hein. Ils ont sorti un coloris jaune, ils ont sorti 2-3 coloris. Voilà, alors, est-ce que c'est pour teaser le retour de The Ten dont on parlait
c'était
en 2025
prévu, ouais, c'était prévu.
Mais on n'entend plus parler.
Non. Ben, je pense que on en entend plus parler aussi parce que rappelez-vous qu'il y a un nouveau CEO qui vient d'arriver.
Ouais, exact. Donc
forcément,
exact.
Les décisions qui étaient prises en 2024 vont être vues en 2025. Donc,
ouais, forcément, ça doit
avorter.
Ça exactement. Doit influencer. Yes. Bah voilà pour cette
Merde, c'était pas off-white. Ouf.
Ouais. Non, le travail il est pas ouf. Bon, moi j'aime le gris, hein, il y a que la couleur que j'avais un peu retenu, full gray. C'est joli d'avoir la semelle assortie au upper.
Ouais.
Ce qui est pas toujours, ce qui est souvent le cas sur une Air Force One, mais pas sur les autres. Je trouve qu'elle est aussi cette Air Force One, on en voit quand même un peu moins. Elle est un peu en déclin. Pour preuve, c'est qui a sorti, tu sais, les trois coloris d'Air Force One il y a un mois. On était plutôt sur des coloris pastels. C'était Drake.
C'était
Nocta.
C'était Nocta, ouais.
Tu vois, c'est encore stocké. Ouais. C'est encore stocké. Tu vois, ouais. c'est quand même une indication. C'est que ça marche pas de ouf.
Ben après Drake il a pris cher quand même en 2024 donc forcément
et il continue en 2025
donc forcément quand tu portes une chaussure de Drake c'est que tu t'identifies un petit peu au personnage et quand tu vois ce qu'il a pris en 2024 forcément c'est pas un grand succès commercial je pense.
Non, c'était pas ouf.
Ouais.
C'était pas ouf.
Et du coup, t'es une victime au fait.
De quoi ?
Tu portes du Nocta, t'es.
Non, je dirais pas que t'es une victime, mais.
Mais tu vois, si on parle des Air Force One, c'était joli ces coloris pastel.
Ouais, c'est pas mal. Mais ce que je veux dire, c'est que, tu vois, il y a quand même une génération, et je pense qu'on en fait partie, la chaussure, il identifie un artiste.
Ouais.
Donc si l'artiste, tu le respectes pas, tu le kiffes pas, potentiellement, tu vas pas acheter la chaussure, tu vois.
Totalement d'accord.
Moi, mon fils, par exemple, qui a 16 ans, qui kiffe la Nocta. Drake, il s'en fout, hein. Tu vois, il va te sortir un son, mais tu vas lui parler de Distract ou je sais pas quoi. Il s'en fout, tu vois. Il veut la Nocta, quoi. Donc, je pense que c'est pour ça qu'on est dans un espèce de flou, tu vois, sur ce genre de paire.
Complètement. Ça vous va pour cette Air Force One Off-White? Je vous propose de passer à la seconde, qui est assez réussie en termes de colorway, qui est le designer qu'on a deviné la semaine dernière, Saleh Bembury, qui est en collaboration avec New Balance sur une 1500. Je suis très heureux qu'il retravaille ce modèle 1500 qui avait été un peu éteint par les 996, 997, etc. Magnifique paire, très profilée. Et là, on est sur un coloris beige gris avec une semelle intermédiaire un peu crème, un upper beige assez réussi.
Ça c'est pour Nico.
Non mais c'est la façon dont il a décrit, il me fait penser à Denis Brognard, tu sais, à Koh-Lanta quand il décrit les plats qui vont bouffer les mecs.
Mais ça c'est trop une paire pour toi. Je te vois trop dedans.
C'est gentil.
Moi je dois juste pas lâcher 250
balles. Ah ouais.
On est sur les tarifs made in UK. Elle s'appelle Growth Be the Tree, si j'ai bien dit.
Comme l'arbre.
À peu près, un peu comme l'arbre. Et elle reprend un peu tous les thèmes de Saleh Bembury, orienté vers la terre, etc. Je trouve t'as raison, Krish, c'est tout à fait les colorways de Nico.
Non, puis même style, tu vois, vraiment.
Ouais, ouais.
Il y a toutes tes dates shoes des années 90.
Après,
quoi.
Si je puis me permettre, cette paire, t'enlèves Saleh Bembury. Il n'y a pas de signature au fait.
Il y a un N comme Nico, je dirais.
Non, il y a cette inspiration de la terre, inspiration de l'arbre, tu retrouves dans le choix colorway.
Je veux dire, une Saleh Bembury, normalement, tu la reconnais.
Tu la reconnais direct.
Oui, là, ça pourrait être une paire lambda de 1500, en fait, c'est ce que je veux dire.
Ouais.
Mais elle est cool.
Ouais.
Elle pourrait être vendue chez Wanamachu, tu vois.
Ouais, ça passerait.
ça
peut passer. Je trouve ça assez réussi. Assez réussi.
Non, il n'y a rien de. Tiens, par contre, si tu veux parler, tu prends le micro, s'il te plaît.
Ouais.
Mais non, mais c'est pas ça. C'est parce que j'étais en train de vérifier un truc. Mais apparemment, il y a une inscription Saleh Bembury. C'est pour ça que j'en parle. Là, déjà, c'est écrit là, comme ça. Et je la cherche sur la chaussure, en fait.
Non, je l'ai peut-être pas sur les visuels que j'ai mis. Mais on retrouve souvent son empreinte digitale comme signature.
Sur la languette, apparemment.
Ouais, il doit y avoir un petit truc. En tout cas, c'est mignon, ça reste un peu chéro, mais on va pas les taxer d'avoir augmenté les prix. Une Made in UK, c'était toujours aux alentours de 250 balles. C'est fini à la main, c'est des matériaux premium. Ben voilà, pour cette New Balance 1500, je serais content que le modèle soit un petit peu plus poussé. Je la trouve hyper profilée, très fine.
Mais du coup, Nico, tu vas la essayer de la cop ou pas?
Never.
Trop rush.
Ouais,
c'est un peu rush.
Ça, c'est 100 balles, ça.
250.
Allez, c'est 90 euros moins cher la prochaine, mais ça reste toujours un peu d'argent quand même. On l'a rapidement évoqué la semaine dernière. Je voulais quand même en parler, parce qu'il y a toujours des packs sympas pour le Valentine's Day. Là, il s'agit d'un pack de Air Max Valentine's Day, qui a commencé à sortir, qui continue à sortir, qui sort sur l'application Sneakers à partir du 8. Il y a deux gros colorways, un noir avec noir en nubuck un peu mat, avec une virgule flashy violet voire fuchsia, et un coloris tout fuchsia et une virgule un petit peu plus rose rouge. Sur le coloris tout fuchsia, elle est un petit peu plastique. Moi, c'est quand même plus la noire que j'avais retenu, où je trouve que la semelle de contact rose, mais qui aurait pu être assortie encore mieux à ce souche, marche bien. Et on a des petits bijoux de lacets. On va retrouver les lettres Nike que tu peux mettre à chaque croisement de tes lacets sur tout ton coup de pied, ce qui vient un petit peu rehausser la paire et lui donner un vrai côté féminin.
Gis. Moi, je voudrais juste revenir sur le truc que je trouve le plus drôle et en même temps le plus ridicule, c'est le texte qui est écrit sur les lacets. Comme c'est une paire Valentine's Day, Nike s'est dit que ça serait une bonne idée de mettre une petite phrase sur les lacets en rapport aux relations de couple, et ils ont choisi « It's not me, it's you », signifiant « c'est pas moi, c'est toi », la fameuse phrase bateau qu'on peut entendre lorsqu'on se fait jeter ou qu'on jette quelqu'un. J'ai trouvé que c'était un choix un peu particulier quand
tu
même.
Je crois que c'est dans ce sens-là.
Bah oui, it's not me, it's you, c'est sûr, il n'y a pas d'autre truc.
Pas moi, c'est de ta faute, quoi.
Voilà, et pour une paire représentant l'amour, la Saint-Valentin, on est à contre-courant, je dirais.
Je pense qu'il y a un autre truc derrière.
Ouais. Bah, ce serait quoi alors? Vous pensez que ce serait quoi?
Après, il dit avec ironie. Donc, si effectivement.
Moi, c'est comme ça que je le vois.
Arbore avec ironie la fameuse phrase, oui, ça peut être vu comme ça.
Et surtout, le It's not me, it's you, je l'entends avec la voix de Taylor Swift, moi. Donc.
Ou la voix de ta meuf.
Ouais, il y a un truc. En tout cas, tout ça pour dire que la rose et rouge fait vachement falche.
Ouais.
Pour reprendre une célèbre expression ancienne,
donc elle est fausse. Hein.
Mais en même temps, dédicace à elle, tu pourras la taguer. C'est Sophie.
Ouais, elle a kiffé.
Non, mais Sophie,
je crois qu'elle a pas déjà pécho.
Sophie, faut qu'on discute.
Mais c'est très girly.
Faut qu'on se voit, faut qu'on discute.
Tu es la bienvenue à la radio.
Et par contre, la noire et rose.
La noire et rose est cool.
J'aime bien.
Ouais, Jaime, tu veux te prononcer là-dessus? C'était quand même fan d'Air Force One. Pas grand fan.
Non, il est pas fan de Valentine's Day par contre. Donc.
Ouais.
Ah, c'est un lover. Voilà.
Mais après 160 euros, c'est cool. Tu vois.
Ouais, c'est le. Oui.
J'espère juste que j'ai pas vu la boîte.
Mais alors, est-ce qu'on trouve pas ça cool? Parce que toutes les autres sont plus chères.
Mais non, je pense pas.
C'est le prix.
Air Max One, c'est 160. Et là, c'est pas une collab, hein, c'est juste une édition.
Mais vous avez vu s'il y a une box spéciale ou un truc
Non, j'ai pas vu de photo de box.
Tu crois?
Ah si, peut-être quand même. Il y a aussi des petits ballons dedans. À l'hélium que. Enfin, petit ballon hélium.
Perso, pour la phrase, il fallait qu'il trouve une phrase. Juste qu'il rentre. Tu sais, alors ça se trouve. C'est du nimp.
Ils auraient pu choisir un truc genre Bima Valentine ou un truc comme ça, tu vois.
Toi, t'es trop lover, toi.
Bah désolé, hein. Moi ça me parle ce genre de truc. Voilà. Ou alors You're My Number One, c'est en rapport avec Air Max One, tu vois.
On parle de Nike, ils sont pas là pour nous faire.
Manu,
des...
vu que tu prends le mic, je te propose de présenter l'autre parce que en fait, il sait toujours pas lire et toujours pas prononcer la Reimagined comme il m'a dit.
J'ai dit réimaginé, je l'ai dit en français pour pas me tromper tout à l'heure, quoi.
Mais c'est trop dur à dire.
Reimagined.
Wow,
motherfucker.
Voilà. See, yeah, c'est la prochaine. C'est la Jordan 5 Black métallique réimaginée pour être à l'identique de la précédente ou quasiment, qui sort le fin de semaine samedi le 8. Modèle mythique inspiré de l'avion Mustang de la Seconde Guerre mondiale qui avait des dessins de dents que vous retrouvez sur les côtés de la paire. Franchement, cette 5, je trouve qu'elle est beaucoup rééditée.
Ouais, et d'ailleurs, il n'y a pas un truc bizarre
Je suis d'accord avec
les
toi.
Les lacets blancs, non?
Alors, si, non, les lacets blancs, c'était...
C'était déjà les lacets blancs?
Ouais, c'est souvent fourni. Je ne suis
pas sur les autres éditions.
Non, pas forcément. Non, il n'y a pas sur toutes les éditions.
Ok.
Mais on l'a déjà vu Jordan porter les lacets blancs, et à l'époque, je pense qu'il y avait les deux lacets que tu pouvais mettre.
Sur la 5?
Ouais. Ouais, mais t'as raison, elle est souvent en full black, hein.
Moi j'ai l'impression que c'est full black, hein, ouais, dans ma
chambre. C'est fourni avec deux lacets, t'as toujours le bijou de lacet propre à la 5. C'était la première fois que ce... Enfin non, le lace lock qui a été introduit pour la paire.
Ça sert à rien quand tu joues au foot, c'est chiant.
Oui, non, mais c'est une paire de baskets. Les mecs,
et surtout,
il veut faire chier ce soir.
Est-ce que vous avez vu ce détail qui, moi, m'agace particulièrement sur le... Alors, moi, je suis toujours content qu'il y ait un Nike Air à l'arrière de la chaussure et plus un Jumpman comme dans les années 2000-2010.
Ouais.
On retrouve le Nike Air et quand tu zoomes sur les photos, c'est plus un Nike Air brodé comme ça l'était sur la majorité.
Il est thermocollé. Ouais.
Il est thermo,
ils ont plus le temps,
thermocollé,
mec.
Quoi.
Ouais, mais bon.
Ils ont plus le temps.
Et là,
mais tu vois, vous faites chier. Là, thermocollé, c'est 210. Brodé, c'est 250. Donc à un moment ou à un autre, il faut savoir ce qu'on veut.
Je note aussi la semelle intérieure rouge.
C'est le truc que j'allais dire.
Mais je trouve, je trouve que ça va bien avec les lacets blancs.
Non, là ça marche. Et je pense qu'on se rapproche de l'original qui, à mon sens, avait...
Par contre,
ça a toujours été...
Le Air Jordan, il
a toujours été comme
toujours
ça.
Toujours à l'envers.
Toujours.
Oui. Okay. Non, selon certaines versions, il est dans l'autre sens.
Pourquoi ?
Sur la 2011, je crois qu'il est dans l'autre sens. Parce que
quelqu'un sait pourquoi ?
Parce qu'il était gouré. Il fait de la merde.
On s'en fout de ma question. Quelqu'un sait pourquoi ?
Non, mais sur la 4, il n'y a pas un truc comme ça aussi ?
Non, mais il y a une raison pour laquelle elle est brodée à l'envers. C'est... Non ?
C'est pas justement pour que genre, les autres le voient et pas toi, un délire comme ça.
Genre quand Jordan, il est au-dessus des autres et...
Non,
c'est ça.
Alors, ça marche pas avec une 5, mais typiquement avec la Timberland.
Ouais.
Où souvent, tu fais retomber ta languette par-dessus.
Ou la sur Copa une 5. Mondiale.
Oui, mais sur une 5, je capte pas. Mais c'est vrai que sur plusieurs Jordan,
putain,
c'est
ça.
Une vraie question, ça.
Eh oui.
Quelqu'un peut GPTiser ?
Je pense pas que ChatGPT ait la réponse.
Va savoir, mec.
Putain.
Aujourd'hui, va savoir.
Ouais, c'est vrai.
Va savoir. Peut-être que Maximilien Entari, il en a parlé dans sa thèse, donc on va le retrouver sur le sourcing de ChatGPT. En tout cas, j'attends de l'avoir en main. Le petit détail aussi en plus, si vous voyez bien, il y a beaucoup de Jordan 5 qui sont total full noir. Et sur, je sais pas comment on appelle ce terme, tu sais, sur les empiècements. Et bah là, tu vois le petit liseré blanc de la pièce de Nubuck. La découpe, merci Nico. Sur la découpe qui fait ressortir ce côté blanc, ça donne un petit truc à la paire.
C'est pas très joli, je trouve.
Et dans les originels, on le retrouvait assez, ce petit liseré blanc. Alors ?
D'après ChatGPT, c'est exactement ce que tu dis. C'est le principe de. Et c'est écrit à l'envers lorsque tu retournes la languette pour que ce soit écrit à l'endroit.
Et donc, à quel moment tu retournes la languette d'une Jordan 5 ?
Surtout d'une 5 en plus. Quoi.
Tu vois ce que je veux dire ? N'importe quoi.
Voilà, première version donc en 90, deuxième en 2000, puis en 2007, en 2011, en 2016 et aujourd'hui en 2024 quoi.
25.
Donc, pardon, 25 en 2025. Donc pas mal réédité. Moi ça passe.
Ça passe. Qui... pas à ce prix-là, mais ça passe.
Ah oui, pas à ce prix-là, j'achèterai.
La 3, elle est à combien, Manu ? C'est 2,10 aussi ?
2,10.
Oh, je crois que c'était 2,20.
Non, tout est à passer à 2,10.
Ouais, mais c'est trop. C'est trop. Surtout que c'est pas confortable une 5, hein, pour ceux qui en ont jamais mis. C'est vraiment des planches à pain.
Ah, ouais, moi ça me choque moins qu'une 4.
En plus, toi, t'as un pied fin. Et ça, c'est des pieds d'éléphant là-dedans.
Ouais, je suis mieux dans la 6. On est tout à fait
sûr. Tu dois te promener de gauche à droite.
Pour moi, c'était pas le problème du pied fin. Pour moi, c'était le problème du skinny jeans. Mais
ça va revenir à la mode, donc.
Mais
allez, balle perdue là.
C'était une taille de jeans.
Taille de jeans. Mec.
Mets un baggy un jour, Alex. Franchement, mets un baggy.
Là, mec, j'ai mis le plus large que j'ai aujourd'hui. Sinon, je ressemble à rien. Quoi.
On dirait un cycliste en plus.
Ouais. Criquet, hein,
en
mec.
En parlant de cycliste, on peut parler de la Air Superfly.
Ouais, cycliste. Mais
c'est planche à voile.
Franchement,
planche à voile.
Je capte pas.
Que c'est moche. Après, il y a une explication. L'explication, c'est que on est sur la mode de ce qu'on appelle le low profile.
On est d'accord.
Non, mais là,
donc,
c'est...
donc on l'a décrit.
En dessous du low profile, il n'y a pas un autre terme.
Non,
il
n'y a pas.
Il devrait en inventer un.
On parle de la Air Superfly Femme qui ressort, un coloris lab green et un coloris black et métallique. Ça sort le 7 et je l'avais choisi parce que je trouve ça très moche, très dégueulasse. Ça sort sur l'application SNKRS. Alors, est-ce que c'est hype ? Enfin, j'ai beaucoup de mal à comprendre.
C'est mignon pour les demoiselles.
Ouais, mais ça fait vachement ça fait chaussures de piscine, mec. Pour
ouais,
pas glisser, quoi.
Planche à voile.
Ouais, planche à voile, tout
ouais,
à fait.
C'est pas mal, chaussures de piscine, ouais.
Ça sort à 99 euros, dit Jaime, il a raison. Après, vas-y, Gislain.
Hein. Ça vaut pas plus, hein.
Moi, tout ce que je voulais dire, c'est vraiment, je me demande... Honnêtement, je me demande qui va porter ça, parce que là, ça fait un moment que, avec mon travail, tout, j'en profite pour voir. Je passe devant des lycées, donc je regarde les chaussures et tout. Je vois un peu ce qui se fait. Ça, là, vraiment, je vois pas du tout. Et comme tu le dis, hein, ça me fait vraiment penser aux chaussures que tu mets pour aller dans l'eau, quoi. Ça ressemble à rien d'autre. Même le colorway, en vrai,
il est dégueulasse. La menthol, elle est cool.
Ah non, c'est pas menthol, mec. C'est vraiment beaucoup plus pâle que menthol.
Ouais. C'est vraiment un vert pastel. Et le métallisé encore, c'est le gris métallisé. T'as l'impression qu'ils se sont dit comment on peut faire pour rendre la chaussure encore plus moche. Vas-y, on va faire métallisé.
Ça me fait penser à un parfum.
Fais full black ou full white, c'est plus simple.
C'est un parfum de glace que personne mange. Menthe chocolat.
Menthe chocolat, exactement.
After Eight.
After Eight.
C'est pas pareil.
Chez Frenchy, je connais ça. Menthe chocolat.
Moi, j'aimais bien After Eight chez Frenchy.
Tu vois, il y a deux ans, on était sur la Fila Disruptor. On passe du coq à l'âne.
Bah, on revient, je pense qu'ils vont peut-être nous ressortir des Flyknit Tracer.
La Flyknit, je pense, ouais. Je pense que ça fait partie. Encore une fois, si on veut rester dans le délire, le profile, je pense que la Flyknit, c'est obligé qu'elle ressorte.
Et je voulais aussi.
Ça passe avec un skinny, une Flyknit
En été, ouais.
Merci, Krish. Je t'appelle pour que tu valides à partir de maintenant, quoi.
Et surtout, il faut quand même le préciser, c'est quoi ce talon? Le truc, c'est quoi? C'est moche, c'est vraiment moche.
Alors, ouais, je le décris, la semelle revient un petit peu à l'arrière sur le talon avec un angle qui est fait dedans.
Ouais.
Ça, c'est quand t'es au five et que tu mets une talonnette.
Non, vraiment, allez la voir sur la story, celle-là. Et en vrai, donnez votre avis dans les commentaires parce que c'est vraiment une paire qui est très, très particulière. Et j'aimerais bien savoir s'il y a au moins une personne qui serait prêt à la COP, quoi.
Salut, Sophie. ouais, donc je sais pas, hein, franchement, on passe à autre chose.
Pas à ce prix-là.
Allez. Bah voilà pour le tour de l'actu des baskets qui sortent cette semaine. On était ravis de partager
Quelle
ça.
Quelle belle sélection, Alex. Merci.
Bah écoute, franchement, j'en ai mis plusieurs. J'étais pas ultra, ultra inspiré et Jaime avait raison. Au début, j'étais très Nike. Mais c'est vrai que chez les autres, on a vu très, très peu de.
Oui, il n'y a pas eu grand chose cette semaine.
Il y a eu très peu de choses.
À part des annonces pour l'année prochaine.
Ouais, c'est ça. Attends, parce que tu vois, j'ai relevé une collab entre Concept sur une Nike Air Max qui annonçait un sur 93, mais d'après Nico, c'est plutôt une 94. Il y a un petit truc.
Te confirmera. On a. Si ça va, tu dis pas les WhatsApp. Hein. On a mis la photo de la 94.
Ouais.
Non. Attends. Oui, mais
oui.
Ça confirme que c'est une 94.
C'est une 94, c'est une collab avec Concept. Et
elle a un truc.
Je sais pas, il y a une bulle d'air très très grande, assez large à l'arrière qui fait tout le demi-talon. Et ce petit souche qui continue, il y a un petit truc là-dessus.
Un truc.
Et un peu,
je suis d'accord, allez, à voir en vrai.
Et un peu mode. On dit speckles, tu sais, pour les petits.
Sparkles.
Ouais, les petits points comme ça là, qu'on retrouve sur la paire full noire. Voilà, c'était pour l'actu, mais moi je vous propose qu'on parle des 2-3 infos qui concernent le monde de la basket, parce qu'il se passe pas mal de choses. Tout d'abord, on va rester un peu chauvin, alors on passe dans l'autre département de notre magnifique Alsace.
6-8.
Voilà, avec le 6-8. Et pour ceux qui suivent nos amis d'Impact Premium sur Instagram, vous avez vu, grande annonce, Impact Mulhouse, le magasin historique d'Impact déménage. Ouais.
Pas le magasin historique parce qu'ils ont déjà déménagé une fois. Du précédent magasin historique. Alors non,
Il y a eu même Strasbourg au tout début.
Il y a eu Strasbourg. Il y a eu un tout premier magasin à Mulhouse. Ensuite, il y en a eu un deuxième qui était un petit peu plus petit à côté de la place. Je ne sais pas si elle s'appelle la place de la cathédrale.
On ne connaît pas les places. On ne connaît pas les places.
Donc en tout cas, elle était voilà. Et ensuite, ils sont venus dans ce magasin là avec cette magnifique verrière, un très beau magasin en deux parties.
Ils n'ont pas joint deux magasins en fait.
Ils ont joint deux magasins exactement. Et là, ils reprennent un méga shop qui était l'ancienne cellule d'Intersport qui se trouve à proximité du rue du Sauvage. Et ça va être une dinguerie. Ça va être une folie. Et je pense, je suis désolé, je vais faire des rageux, mais Mulhouse ne mérite pas.
Ça c'est pire que tout ce qu'on a dit.
C'est pas possible. Pourquoi à Mulhouse ils ont ça, nous on n'a pas.
C'est presque raciste ce que tu dis.
Non, je dis pas ça, mais ils sont pas assez nombreux. En fait, c'est juste mathématique.
C'est encore l'Allemagne.
Il y a quand même une clientèle de ouf là-bas.
En fait, alors déjà, il y a la clientèle de Mulhouse, il y a la clientèle de Colmar, il y a la clientèle suisse.
Ouais.
La clientèle d'Allemagne. Évidemment que je me moque avec la clientèle d'Allemagne. Évidemment, je me moque et évidemment, je le dis avec jalousie. Mais moi, je suis jaloux qu'ils aient un shop comme ça, tu vois.
On devrait déjà être content qu'il était d'accord d'ouvrir à Strasbourg.
Et il est magnifique, le magasin de Strasbourg. Il est déjà très beau, mais là, ce qu'ils vont faire sur Mulhouse, ça va être une folie.
De toute façon, vous verrez ça tous les jours, vous verrez ça un jour sur Insta, on fera une sortie.
Pour l'inauguration.
Ça serait sympa, quoi.
Évidemment.
Et donc gros déstockage depuis samedi.
Ouais.
Et alors là, franchement, les queues et les photos qu'a mis Impact, on se serait cru mieux que les grandes heures des sorties d'Easy qu'il y avait là-bas.
Bah, y avait approximativement, pour ceux qui avaient de la chance, 2 heures de queue donc à l'extérieur.
Ouais.
Et une heure et demie de queue pour la caisse.
Waouh.
Donc c'était juste la folie. Ils ont dû arrêter effectivement de mettre les gens dans la file à partir de 16h30, 17h je crois, sachant que le magasin ferme à 19h. Donc encore une fois organisé de main de maître par Laurent et ses équipes.
Ouais, bravo les gars.
Et magnifique interview, vous pouvez retrouver chez nos amis de Les Bonnes Sapères, qu'il a reçu en visio. Il raconte un peu l'histoire du shop.
Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la com autour de cette méga braderie. La com, elle était folle. Donc avec ce petit mini film là, franchement impeccable.
Toujours très fort.
Oui.
Et pour moi, est-ce que c'était pas aussi les premiers, tu te rappelles, à l'époque de la Yeezy, où Laurent avait décidé de ne pas rester que centré sur Mulhouse.
Exactement.
Il était venu à Strasbourg, même à Colmar, en distribuant un peu des accès, à l'achat de cette Yeezy.
J'avais fait une raffle avec lui. Hein. C'était marrant, on s'était retrouvé à la gare de Strasbourg. À la gare de Strasbourg, il y avait déjà des petits qui avaient capté en fait que Laurent était là, donc il avait coursé, suivi. Et on s'est retrouvé dans un bar là, rue Sainte-Hélène, je crois, à côté.
Hélène et les savons d'Hélène.
On s'est retrouvé là-bas et en fait c'était ouf quoi, c'était franchement phénoménal.
C'était la folie.
C'était la belle époque.
Ouais, il y avait une sortie là la semaine dernière aux États-Unis, je sais plus quelle marque, c'était pas Cortez, si peut-être. Et tu voyais les gens, ils avaient donné un point GPS pour retrouver la paire.
Ouais.
Et tu voyais tous les gars qui avaient jeté leur vélo. Et franchement, ça m'a fait penser à Laurent. Vous voyez les petits jeunes avec leur vélo qui les balançaient pour aller récupérer le ticket. Et tu vois, Impact, ils ont toujours eu cette originalité. Et aussi cette flexibilité d'être indépendante, pouvoir penser leur corps, faire les choses.
Ouais, je pense que c'est. Et après aussi.
C'est le talent de Laurent aussi.
C'est le talent de Laurent, c'est sa personnalité, parce que j'ai visité beaucoup de magasins du coup sur Paris et tout. Et malheureusement, on a des magasins et on a des shops, je vais pas les citer, mais tu sais, qui se prennent plus pour de la merde, qui sont beaucoup trop hauts, tu vois, beaucoup trop hype. En fait, ils ont oublié ce qu'ils faisaient, ce qu'ils vendaient, ou d'où est-ce qu'ils venaient, tu vois. Alors que Laurent, en fait, depuis le départ, il s'est jamais travesti.
Ouais, il a toujours parlé d'expérience client.
Exactement, bien sûr.
Tu vois, parce que dans ces magasins où t'es un peu regardé de haut, on n'est pas obligé de les citer, mais on en avait parlé d'un qui s'est cassé la gueule récemment, c'est pas agréable. Ok, t'as un bon produit, mais on reste un consommateur, t'as envie d'un accueil, et Laurent a toujours mis l'expérience client au milieu. Tu vois, il y a un petit musée, un mini-musée avec des belles pièces ici, il y en avait un à Mulhouse, à mon avis, il va encore sortir des trucs assez foufous dans ce nouveau magasin. Bah, peut-être que ce sera l'occasion de les réinviter pour l'inaug. Et je trouve ça génial. Et en même temps, on va conclure là-dessus, sur ce sujet, presque un peu rassurant, parce qu'on en a vu plein de zingames qui se cassaient la gueule. Et Impact continue à grandir. Et c'est peut-être aussi cette recette de ne pas être juste dépendant de la basket.
Et de ne pas être juste dépendant des soi-disant produits hype.
Ouais, c'est ça. Ah oui,
en fait,
quand je dis,
tu vois ce que je veux dire.
Mais complètement.
En fait, faut pas oublier que sur le marché de la basket, il y a les produits hype et il y a aussi des produits ce qu'on appelle mass market. Tu vois, des trucs que tout le monde a envie d'acheter, que tout le monde a envie de copier. Si tu fais un magasin où que tu vends que de la hype, ben en fait, tu touches qui, tu vois. Donc et c'est pareil. Il a toujours ce côté de ramener des marques pas très connues ou voire même inconnues. J'ai découvert une marque japonaise chez lui l'année dernière qui faisait des superbes vestes qui ressemblaient un petit peu à Carhartt, mais à une gamme au-dessus. Donc tu vois, il a toujours ce truc de faire découvrir d'autres marques qu'on connaît pas, donc ça c'est chouette.
Ouais, et là-dessus très fort. Et il est même reconnu de, tu vois, une collab avec Carhartt.
Complètement, Carhartt, Puma. Donc il a collaboré avec les gros, tu vois. Ispac aussi. Donc,
oui, exact.
Ils avaient fait un sac Ispac, donc ouais, c'est costaud. Hein.
Et ça permet de rappeler au monde entier que l'authenticité a toujours de la valeur à l'heure actuelle, quoi. On n'est pas obligé de vendre son âme au diable pour faire des pesetas.
Exactement, et c'est une magnifique transition que tu me soufflais, Ghislain. Mmh. Et avant pesetas. De parler de la thèse de Maximilien Entari, on va parler de ce magnifique article, il s'appelle le Sneakeronomist. C'est l'économiste de la sneaker, c'est Matt Powell, qui a un blog depuis des années et des années. Aujourd'hui, tu peux facilement le suivre sur sa page LinkedIn, qui produit des articles régulièrement sur le marché en soi, avec une vraie analyse économique du marché. Et le titre de son article, qui est en lien exactement avec ce que disait Krish sur « faut pas dépendre de la hype pour pouvoir avancer », et ben, il se pose la question « est-ce que le modèle hype est brisé ?» Alors il en a parlé plusieurs fois sur le secteur de la basket qui a changé, surtout après la pandémie. On a vu cette évolution et ça implique un changement un petit peu de baseline, un changement d'orientation de la part des marques, parce que pendant plusieurs décennies, le marché de la basket aux États-Unis s'était construit plutôt sur la rareté, la mise en avant de ce fear of missing out, et surtout il surfait beaucoup sur cette frustration que pouvait avoir le consommateur de pas avoir, qui était capable peut-être de se rabattre sur des modèles que nous on appelle takedown. Donc t'as le coloris hype que tout le monde veut, que personne a, et tu vas te rabattre sur le coloris
qui ressemble un petit peu, quoi.
Pour résumer, pour ceux qui suivent un peu la basket,
prends l'exemple des Wu-Tang, même
la Wu-Tang avec une dunk à Iowa ou Michigan, ou même entre Jordan la trade par exemple ou la Jordan Travis marron, et la première marron et blanche. Et la Mocha, qui est sortie, voilà. Tu vois, c'est parfaitement la définition du takedown colorway, on va dire, de ça. Et donc pendant plusieurs, depuis 2015, plus de 10 ans, la plupart des marques surfaient là-dessus. Et depuis la pandémie, ce modèle tend à s'effondrer. On l'a vu au travers de l'effondrement de plateformes de revente comme KikiKicks, comme RetroShop ou des choses comme ça. Et là, les marques sont en train de un peu de changer leur fusil d'épaule. Un exemple récent, c'était la sortie, et ça c'est très intéressant, de la Jordan 11 Legend Blue. Vous voyez la full white. Et toi, Manu, fan de 11, Krish aussi, c'était d'ailleurs les seuls Nike où je te connaissais en avoir. Oui. Celle-là, elle est toujours stockée. Alors qu'avant, mi-décembre, tu savais qu'il y avait une 11 qui sortait. Et c'était très très rapidement sold out.
Après, je pense qu'il y a plusieurs éléments, tu vois. Il y a le prix de la chaussure. Parce que malgré tout, une 11, c'est hors de prix.
220 balles, ouais.
200, enfin, c'est hors de prix. Quand tu veux l'acheter au mois de décembre, mi-décembre, juste avant les fêtes de Noël ou pendant les fêtes de Noël, je pense que techniquement, c'est pas la meilleure solution, tu vois, ou c'est pas le meilleur créneau. Et après, t'as une quantité en volume qui est plus importante. Hein. Donc forcément, tu te retrouves avec des produits qui sont pas sold out. Et après la 11, quand tu l'as porté une fois, les gars, en termes de confort...
C'est pas ouf, c'est éclaté.
On est d'accord. Franchement, moi, je la mets juste parce qu'elle est stylée, hein. Pas du tout parce qu'elle est confort.
Quelqu'un une légende blue ?
Non, j'aime pas.
Ok.
Moi, j'en avais une, mais à cause de ma mère, tu connais.
Ah oui, tu l'as raconté il n'y a pas longtemps. Ghislain.
Moi, je me disais, par rapport aux éléments qui peuvent expliquer ça, je me demande aussi si c'est pas l'arrivée de la génération qui ont donc découvert les sneakers, mais qui sont aujourd'hui, on va dire, au pouvoir dans ce domaine. Parce que je repense exactement à la Wu-Tang, qui à l'époque était une paire quand même
Graal,
légendaire, Graal et tout. Et aujourd'hui, si aujourd'hui énormément de gens peuvent l'avoir, c'est parce que justement, il y a RZA qui a dit, en fait, on arrête les bêtises et de laisser ça à juste quelques personnes, on donne à tout le monde. Et je me demande, comme on arrive vraiment dans cette étape où tous les gens qui ont grandi avec les sneakers arrivent au pouvoir, on va dire, façon pareille, dans le monde des sneakers. Je me demande s'il n'y a pas ce côté non, nous on a galéré quand on était petit, maintenant il faut que tout le monde l'ait, tu vois.
Je sais pas.
C'est une question que je me pose, hein, je précise.
Moi j'ai un petit élément de réponse qui est dans l'article de Matt Powell. Je pense que t'as ciblé juste sur la génération. Cette jeune génération, elle a peut-être plus les mêmes codes de consommation que les nôtres.
C'est exactement ça. Nous on avait le storytelling,
exactement.
Eux ils ont la hype.
Exactement.
Ils s'en foutent de l'histoire, royal.
Totalement. Et ce qu'il dit, je vous l'ai mis en gras au cas où vous aviez pas eu le temps de lire tout l'article. Ce qui marche aujourd'hui, c'est la mode. Ok. Pensez à ce qui a bien marché dans la mode des baskets ces dernières années. Qu'est-ce qui est ressorti ? Alors c'est pas une basket, mais c'est Birkenstock, c'est Crocs, c'est Oka, c'est On et c'est Samba.
Même
pourquoi
les Hugs.
même les Hugs. Et pourquoi ces modèles ont-ils autant marché? Et tu racontais beaucoup pour la Samba. C'est le jour où finalement c'est des influenceurs qui ont déclaré ou qui ont porté ce modèle et qui ont déclaré que c'était ça la mode.
Mais du coup, c'est là où tu vois, je suis pas spécialement d'accord avec ce que tu dis, dans le sens où moi je m'estime pas faire partie de ceux qui ont le pouvoir dans la sneakers aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? J'ai le pouvoir d'achat, certes, qui me permet d'acheter des trucs, mais j'ai l'impression que le marché de la sneaker, c'est toujours dicté par cette génération Z et dicté par des gens que je fréquente pas ou dans lesquels je me reconnais pas, tu vois. Donc, du coup, dire que le marché de la sneaker, c'est moi qui ai le pouvoir, je sais pas. Franchement, j'ai un doute.
C'était pas dans le sens genre nous qui avons le pouvoir, mais j'imagine plus les gens qui arrivent à la tête de ces entreprises en fait.
Non, parce que
en fait, l'exemple de Nike, parce qu'on est quand même encore dans de l'old school façon de parler avec même le nouveau PDG, mais j'ai l'impression que beaucoup de marques arrivent avec une jeunesse aux têtes pensantes. Je sais pas si c'est clair ce que je dis.
Après, de toute manière, tu sais, pour toutes les boîtes, chez Adidas, là. Cible, c'est la génération Z et la génération Z.
C'est comme ça que je dirais. Et je trouve que ces dirigeants, ils ont dû plus comprendre ça. Et en fait, ils répondent à cette demande de cette génération Z.
Bien sûr. Franchement, les gars.
Je crois que la prochaine, c'est Alpha.
C'est une demande qui évolue très rapidement.
C'est bêta.
Non, maintenant, c'est bêta.
Ça peut bouger tous les 6 mois. T'as un nouveau phénomène qui arrive.
Ouais.
Mais faut que la mode.
Non mais tu vois,
et c'est intéressant, ça se démode,
c'est intéressant ce que tu dis, parce que là il y avait les Grammy ce week-end. Franchement, il aurait fallu que une méga star porte une paire de, mais tu vois, à laquelle on n'aurait même pas pensé, même pas une paire de fou, tu vois, mais ça aurait fait un carton plein.
Mais tu vois, pour moi la méga star, ça vient aussi du réseau d'influenceurs. C'est une forme d'influence. Contrairement, parce que ce que Matt Powell dit, c'est qu'avant, il organisait l'envie du produit au travers de la frustration et de la rareté. Tu vois, on te faisait un beau storytelling et finalement, t'arrivais pas à l'écope, il y avait de la frustration, etc. L'envie du consommateur, Matt Powell dit qu'elle viendrait justement de l'influence que peut avoir la mode au travers des influenceurs qu'on va retrouver sur les réseaux sociaux, etc.
Il y a de ça, et il y avait aussi les entreprises qui orchestraient finalement cette rareté, tu vois. Là, si demain, je sais pas quelle star on pourrait citer des Grammy, mais si.
La nuance, c'est qu'avant, les marques organisaient justement cette montée en puissance d'un modèle qu'on voulait placer.
Voilà.
Alors que maintenant, t'as une influenceuse connue, reconnue, qui, elle, peut avoir un coup de cœur sur une fila disruptor, elle va la mettre, boum, ça va faire.
C'était
un peu
le cas de la Samba.
Ça va lancer un truc que la marque ne s'attendait même pas à.
Non, mais ça, c'est ce qui s'est passé avec la Samba. Mais ce que je vous dis, c'est que aujourd'hui, les marques ne veulent plus forcément aller dans cette rareté qui a créé de la frustration et qui, finalement, sur le long terme, ne génère pas grand-chose. Aujourd'hui, les marques, elles veulent que si la paire qui n'avait pas été poussée par la marque est portée par, je sais pas comment elle s'appelle, Billie Eilish par exemple, et ben demain tu puisses l'acheter chez Foot Locker, chez JD et machin, et que tout le monde l'ait et que tout le monde soit content, tu vois.
C'est pas appliqué à la banane, les gars.
C'est pas appliqué à la banane, je suis d'accord.
On en parle peut-être la semaine pro, mais il y a Manu qui voulait réagir.
Non, c'est bon.
Non, il a tout dit.
Mais c'est vrai que là on parle vite fait de la banne, mais ça me fait penser. Là on a vu
la banette.
On a vu dans le même période là qu'ils allaient, donc ils ont annoncé la Black Toe.
Ouais,
c'est ça. Et là justement, ils jouent juste le côté. On prend Travis Scott pour les porter pour que la hype soit créée.
Ouais.
C'est pour ça Nike, ils ont. On le sait, mais ils sont.
On en parlera la semaine pro.
Ouais, on en parlera plus en détail. Ouais. Mais Nike, je trouve que je vais encore le dire, ce qu'on dit toujours, c'est qu'ils font des trucs un peu bizarres en fait.
Ils sont pas concentrés.
Mais il y a aussi ce truc de, comme on parle d'influence, etc., où les marques, elles perdent leur influence directe. Tu vois, c'est plus maintenant la marque qui va définir ce qui va être à la mode, ce qui va marcher, ce qui va. Enfin, elle a toujours ce truc là, mais elle a plus le monopole en fait de l'influence sur la mode. Là maintenant, n'importe qui peut être influenceur sur la mode.
Ouais,
quelqu'un qui imagine, il suffit juste que t'es un mec, un influenceur ou nana, peu importe, ou voilà, un robot, j'en sais rien, qui s'habille toujours tout en noir. Le jour où il met une paire de baskets blanches, peu importe la marque, bim, ça va influencer le truc. Et là derrière, les marques, elles vont essayer de suivre. Et il y a une marque qui va se dire, eh ben voilà, tu sais quoi, on va essayer de faire un partenariat, on va essayer d'influencer le truc. Donc en fait, elles n'ont plus le monopole de l'influence.
Complètement.
Donc elles essayent de faire ce qu'elles peuvent.
Et ce qui rajoute, et c'est très intéressant, que c'est en particulier les femmes qui portent ce marché et qui aiment ce mode de consommation plutôt orienté, influenceur, mode, etc. Et qu'aujourd'hui, j'aime bien comment il le formule, que la culture du drop, elle s'est passée et que le modèle est vraiment en train de changer. Et il conclut par ce que tu vas dire, c'est le consommateur qui décide et pas la marque.
Ouais.
Tu vois. Et ce changement de modèle signifie que les marques et que les détaillants doivent de plus en plus à l'écoute de ce marché, voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et ce qui va vachement influencer aussi la production et la distribution, c'est qu'au final, si tu vas être beaucoup plus réactif au marché, il faut réduire tes délais, parce qu'on l'explique souvent, c'est quasiment pensé à 2 ans à l'avance sur ce qui va sortir. Et là, on se pose la question de ce qui sort en 26-27, quoi.
Ouais, alors que là, c'est vrai qu'avec l'arrivée, j'en dirais, avec les influenceurs maintenant qui dominent le game, il faut que tu sois au taquet presque le lendemain, en fait, que la personne ait posté son truc ou ait fait son haul en mode coucou les amis, alors on va déboxer la nouvelle paire de nanana. Ouais, il faut vraiment qu'ils soient au taquet, et il y a beaucoup de marques qui galèrent et d'autres qui savent surfer sur cette vibe.
Tu vois, il conclut en disant qu'aujourd'hui, si le consommateur continue à trouver et devoir chercher des baskets qui sont indisponibles, de plus en plus il va se rabattre sur autre chose.
Bah regarde-nous. Hein.
Et pas de recel.
On se rabat sur on n'achète plus.
Ouais, on n'achète plus, et tu vois bien que le recel c'est casser la gueule, quoi.
Ouais. Bah ouais, parce que nos salaires se sont dangereux.
Non, nos salaires, ils ont peut-être pas encore baissé, mais c'est c'est les prix qui ont augmenté, donc on a tous beaucoup moins de pouvoir d'achat. Voilà pour ce sujet. Avant de passer au quiz, on pourrait évoquer pour les 10 dernières minutes, 10-15 minutes qui nous restent, un petit clin d'œil à Maximilien Entari qu'on a reçu déjà par téléphone à la radio. J'aimerais beaucoup qu'il revienne pour parler de sa thèse, parce que ça y est, je connaissais un Américain qui était professeur PhD, professeur des universités, je crois, en North Carolina. Et là maintenant on a un docteur en sneakers qui est Maximilien Entari, qui a présenté sa thèse je crois qu'il y a 8 ou 15 jours à la Sorbonne.
Félicitations.
Après je crois quasiment 5 à 8 ans de travail sur cette thèse. Il est doctorant, enfin il a été doctorant, il est docteur maintenant, et le sujet de sa thèse, je vais me mettre à la bon endroit, le sujet principal c'est être stylé, facteur de crédibilité de l'influenceur digital S sneakers. Donc c'est de la définition du style pour les digital natives à justement à ce qu'est aujourd'hui l'influenceur sneakers, comment ça marche là-dedans, et ça a été présenté à l'université de Panthéon Sorbonne. Ça fait quand même assez classe. Krish, toi qui travailles un petit peu là-dessus, t'as lu quelques extraits, t'as regardé un peu le sujet?
Pas encore, on en a parlé avec Max, donc je viens de lui envoyer un message là, j'espère qu'il sera très rapidement disponible pour qu'on puisse l'interviewer, mais effectivement moi-même en train de préparer un mémoire qui va tourner autour du hip-hop et de la sneakers, et forcément la thèse de Max va nourrir mon mémoire. Mais ce qui est intéressant, c'est que il voit la sneakers d'un prisme à la fois digital et aussi d'un prisme du style. Et finalement, quand on parle de style, il y a plein de choses à creuser dans cette histoire de style. Et déjà définir c'est quoi du style et c'est quoi avoir du style, et ensuite comment finalement on va se pluguer cette histoire de digitalisation et d'influenceur à travers un objet qui est la sneakers. Donc c'est pas S sneakers, c'est des sneakers. Je pense que t'as oublié un truc dans le...
Non, j'ai revérifié.
Ah bon ? Ouais. Ouais, c'est comme ouais, Docteur S sneakers, c'est la même chose.
C'est des formulations de français soutenues pour... au début j'ai tiqué,
okay.
Et en fait il y a beaucoup de formulations comme ça.
Parce que je l'avais lu différemment moi dans le... Mais bon bref. Tout ça pour dire qu'on a un doctorant. Et un docteur
en... Non, un docteur.
Un docteur, il est plus doctorant, il est docteur en sneakers. Je trouve ça complètement fou.
Et donc la thèse explore probablement les dynamiques culturelles et économiques autour des sneakers en mettant l'accent sur le rôle des influenceurs numériques en la matière dont ils façonnent les perceptions du style auprès des jeunes générations. Et c'est typique, franchement on a des belles transitions, c'est typiquement en lien avec ce qu'on racontait, où aujourd'hui l'influenceur a une part hyper importante. Enfin l'influenceur c'est un média aujourd'hui.
Lui tout seul est un média. Après, ce qui est intéressant, c'est là où ça va compléter ce qu'on dit. Moi, je vais travailler sur l'appropriation culturelle. tu vois, autour de, du hip-hop, wow, à travers la sneakers. Donc le truc, d'ailleurs, tu vas faire partie de mon mémoire, Manu. Mais c'est okay, que, tu vois, il y a des...
On m'a rien demandé, mec. Hein.
Si, tu vas parler si, de Drake, du coup des,
pour l'instant, j'ai une liste et vous en faites partie. Je dis juste que, effectivement, quand tu portes de la sneakers, que tu te veuilles ou non, tu portes du hip-hop. Et on a des influenceurs qui n'ont pas, finalement, ni des codes, ni d'histoire, et qui s'approprient culturellement, finalement, un truc qu'ils ne maîtrisent pas, qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne savent pas. Et aujourd'hui, on se rend compte aussi, après quelques recherches, que les marques font pareil. Ils s'approprient une culture, mais avec des codes qui ne font pas partie des codes du hip-hop. Et c'est là où c'est intéressant, finalement, de voir comment la sneakers, elle évolue dans ce truc, quoi. Ouais, Nico ? J'ai l'air intelligent comme ça. Hein. Ouais, t'es fou.
Je suis
hein.
Fasciné.
T'es choqué.
Je suis noyé dans tes paroles. Là.
Non, je rigole.
Non, c'est.
Mais c'est intéressant et je pense qu'effectivement, dans la sneakers, il y a énormément de trucs à dire. Nous, on le voit comme le matin, je prends une boîte, je l'ouvre, je la mets. Mais en vrai, quand tu réfléchis, quand tu creuses et quand tu regardes d'où ça vient et du coup, les prémices du hip-hop. Pourquoi les gens ont porté de la basket, pourquoi Run-DMC a porté des stands sans lacets, etc., etc., etc. Tu te rends compte que, ben, en fait, c'est pas une chaussure qu'on porte, c'est une véritable culture, tu vois.
Ouais, c'est un statement.
C'est un statement. Alors, ça va au-delà de ça. Et ouais, tu vois, et aujourd'hui, la Stan, on peut parler de la Stan Smith, qui est finalement une sneakers, mais les cultures et les codes de la Stan, est-ce que ce sont les mêmes que les codes du hip-hop? Tu vois, et c'est là où tu peux faire des liens, des parallèles et te demander, ben, finalement, cette Stan, comment et pourquoi elle est descendue des terrains de tennis au quartier ou dans la rue, ben, finalement, grâce au même code que le hip-hop. Hein.
Ouais. Chuck Taylor aussi, l'histoire, elle est dingue.
Oui, donc il y a vraiment plein de parallèles à faire.
Et d'ailleurs, Maximilien Tari qui avait le magazine Le Closet Mag,
exactement,
qui parlait beaucoup de style et ses
et
premières...
de basket aussi.
Et de basket, bien sûr, et il analysait beaucoup. La culture en lien avec le style. Mm-hmm. Et à cette époque, on retrouvait des punks qui ont beaucoup porté
le hard rock,
cette chaussure de
B-ball.
Chuck Taylor, exactement. Taylor, ouais. T'avais aussi les hooligans qui portaient beaucoup de Adidas. Je me demande si c'était
gazelle.
Pas la gazelle.
La gazelle rouge. C'était ceux qui étaient fans du club de Liverpool.
Liverpool.
Et la particularité de cette chaussure, c'était qu'à l'époque, c'était l'une des seules chaussures rouges qui existaient sur le marché. Et du coup, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont appropriés. Mais tu vois, il y a toujours une forme d'appropriation finalement. Et l'histoire et la base de cette appropriation, ben, elle vient du hip-hop.
Voilà. Et donc, il reparle dans sa thèse aussi, justement, c'est ce que tu expliquais très bien aujourd'hui, c'est que cette jeune génération qui, elle, va passer par des influenceurs, sont en lien avec cette culture et ce qu'ils comprennent cette culture et d'où ça vient.
Bah, moi, je me rends compte, encore une fois, Alex, on peut en parler, hein, nos fils ont les mêmes âges. Et en fait, ils sont omnibulés par ce que tu as dit tout à l'heure, le style. Tu vois, l'effet de style, qui l'apporte, qui la met en avant. Et quand je lui demande, tu vois, là il est à fond sur la DN.
Ouais.
Donc la DN8 de chez Nike, là. Et quand je lui demande pourquoi tu l'aimes, il n'est pas capable, en fait, de me dire qu'est-ce qu'il aime et pourquoi il l'aime, tu vois.
À son âge, tu savais pourquoi t'aimais une telle ou telle paire.
Alors, mais finalement, tu vois, je me rends compte
Il y a des paires qui ont des histoires.
Oui, bien sûr. Non, mais du coup...
Moi, je me souviens qu'aussi, parfois, à son âge ou plus jeune... T'as un coup de cœur.
Tu peux même pas
l'expliquer, c'est comme ça. Tu vois,
j'attends pas de réponse forcément de sa part à cette question. Je veux juste lui faire comprendre que ma question a un sens et que forcément il doit y avoir une réponse derrière. Tu vois. Et réfléchis à ça. Même si tu ne donnes pas la réponse,
exactement.
Réfléchis à ça.
C'est un peu ce que je voulais dire aussi parce que je comprends totalement le côté tu vois, un coup de cœur pour une paire. Mais moi, ce que je me rappelle, et encore, je pense que je le fais encore aujourd'hui, c'est si j'ai un coup de cœur pour une paire, ben, je vais vouloir me renseigner dessus en fait. Savoir pourquoi elle est comme ça, pourquoi quelle couleur, pourquoi elle a ce petit truc, etc. etc. quoi.
Sur une paire de mass market, il n'y a pas d'histoire.
Pas d'histoire, mais souvent la paire vient de quelque chose aussi, d'une paire qui à la base, elle, avait une histoire, tu vois, ou d'un sport, tu vois. Moi, en tout cas, c'est un truc que j'aime bien faire par rapport au basket. Mais après, je comprends quand même le côté aussi coup de cœur, c'est joli, j'achète, quoi.
On a eu la chance d'être adolescents, la plupart d'entre nous aussi, dans les années 90, où c'était la guerre des technos, où toutes les semaines, t'avais un nouveau truc qui sortait, qui était révolutionnaire. Donc, ça, voilà, aujourd'hui, en innovation, c'est. on avance beaucoup moins vite qu'on avançait à cette époque. Et c'est vraiment le style, la mode, l'influence qui, à mon avis, fait basculer notre jeune génération.
Après, techniquement, on est allé tellement vite aussi que là, tu te retrouves sur un espèce de... Tu vois, enfin, tu sais plus quoi.
Ouais, t'es un peu dans le creux de la vague, quoi.
Là, tu regardes Reebok, là, avec la Jaime nous a posté un truc sur WhatsApp.
Elle est belle.
Reebok revient avec le RS des années 90.
Mais parce que tu peux, ça sert à rien de réinventer des trucs, ou alors des...
Bah si, là, c'est totalement, c'est réinventé. C'est une technologie déjà existante.
Qui est existante.
Reimagined.
Reimagined.
C'est exactement ça. Ils ont mis au goût du jour.
Oui.
Voilà. Après, je voudrais juste rajouter quelque chose par rapport à tout ça. C'est ce que je trouve très drôle, c'est qu'on parle du coup des influenceurs qui règlent un peu le marché parce que c'est eux qui décident sans le vouloir qui porte quoi. Alors qu'à la base, on va dire dans la mode, les influenceurs, c'est quand même les très grosses marques. Genre vraiment quand je dis très gros, c'est Louis Vuitton, tout ça, c'est eux qui sont censés un peu influencer la mode. Et on voit aujourd'hui
Ils influencent très peu de monde.
Alors, à la base, ils sortent des trucs que personne porte et les petites marques vont s'en inspirer pour sortir des trucs. Ce que je voulais dire, c'est que dans le monde de la basket,
c'est l'inverse.
Mais alors, pas du tout.
Ouais,
quoi.
Complètement.
Même là, on a vu, je crois que c'est Balenciaga qui a sorti une espèce de paire de demi-chaussons où t'as que trois orteils qui sont ouverts et tout.
Tu peux prendre l'exemple de la nouvelle paire de Vuitton. Hein.
Et là, même la nouvelle paire de
Cortez.
La Cortez complètement. En mode skateboarding.
Là, justement, on a exactement les deux exemples. On a une marque qui va essayer de créer quelque chose de nouveau et tout le monde s'en contre-carre. Et on a l'autre marque qui se dit, pour faire un truc qui marche, on va s'inspirer de... La base de la base, quoi.
Exactement. On se finit là-dessus ? On attaque le quiz, messieurs ? Krish remet son masque. Et
je vais perdre, là, putain.
Allez, pour ce 21e épisode, je vous propose le quiz sneakers. Je ne suis pas un designer. Je suis un homme d'affaires.
Bernard Tapie !
Mon nom est associé à une célèbre dynastie familiale dans le commerce international. J'ai été un acteur majeur dans l'industrie de la publicité. Je suis décédé en 2009, laissant un héritage important dans le monde des affaires. J'ai également été propriétaire et président
d'Adidas,
d'un club de foot emblématique.
Putain, laissez-moi arrêter.
Avec le Crédit Lyonnais.
Non.
L'Olympique Lyonnais.
Une marque mythique de sneakers et d'équipements sportifs. J'ai participé à redresser cette marque.
Oui, Patrick, putain, c'est le président de l'OM. Aidez-moi, voilà. Réfus. Ah, bâtard.
T'as trouvé, Jaime.
Putain.
Il est trop fort.
Et mes initiales peuvent se résumer à trois lettres.
Non, mais 0,5 chacun, 0,5 points chacun.
RLD, moi j'ai rien entendu.
Robert Louis Dreyfus. Vas-y, Jaime, partage les points.
C'est quoi ce quiz pourri là?
C'est
designer de quoi lui?
Je ne suis pas designer.
Il la précise.
C'est un quiz de designer normalement.
Non,
c'est ce qui avait été.
Jamais,
on
mec.
S'était mis d'accord.
Nico,
en
ta femme,
de saison.
Ta femme va t'engueuler quand tu rentres. Merde. Tu es trop énervé.
T'auras le point la semaine prochaine,
on
c'est pas grave.
Par contre,
on se partage des points. Jaime, t'es d'accord ou pas?
D'accord. Parce qu'en vrai, c'est vrai que Chris, il a quand même dit c'était
trop
le patron de l'OM. Je suis d'accord.
J'ai dit trop de trucs.
Ah, t'avais pas trouvé patron de l'OM et tout ça?
Je vais tout donner. Je dis patron de l'OM.
On va changer les règles un peu, les gars, là.
Vas-y, 0,5.
On va changer les règles.
Allez. Messieurs, il est 20h58.
On fera des modèles de chaussures aussi à chercher. Faut diversifier les choses.
On fait même des. Tu dévines quel Levi's? C'est un 501, un 504.
J'ai mon 501 old school sur WAM. Voilà, les messieurs, c'était le quiz sneakers pour ce 21e épisode de Sneak On Air. On se retrouve la semaine prochaine pour le 22e épisode. On aura la chance d'avoir Marina avec nous. On va peut-être reparler de ce zoom sur la Air Jordan 1 qui sort la semaine prochaine. Et on vous embrasse tous. Et on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, 20h-21h pour Sneak On Air. C'était Sneakers Empire dans tes oreilles.
La 2, mon pied dans le jeu. La 3, la 4, je zappe et je marque. La 5, la 6, en sont les complices.
Beaucoup d'argent, de guerre et de sexe à la télé.
La 1, la 2, mon pied dans le jeu. La 3, la 4, je zappe et je marque. La 5, la 6, en sont les complices.
Sur votre monté comme un taureau fou, j'ai le syndrome du canapé.
La 1, la 2,
mon prix dans le jeu.
La 3, la 4,
je zappe et je mate.
La 5, la 6,
en sont les complices.
Y'a trop d'argent, de guerre et de sexe à la télé.
La 1, la 2,
mon prix dans le jeu.
La 3, la 4,
je zappe et je mate.
La 5, la 6,
en sont les complices.
Câblé, survolté, j'ai le syndrome du canapé.